France Inter,
franceinter.com.
Je mettrai un terme à la naissance, à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Au milieu de tous les êtres, je serai sans supérieur, je suis l'aîné du monde. Bouddha. Ans d'histoire. Né il y a 25 siècles, quelque part au nord-est de l'Inde, il était, dit-on, le fils d'un roi qui l'avait appelé Siddhartha, celui par qui le bien arrive. Un jour, renonçant au luxe et à tous les privilèges de son rang, il quitta son royaume pour découvrir la réalité du monde et trouver une réponse aux questions que les hommes se sont toujours posées sur la souffrance et sur la mort. Ayant compris que le désir est à l'origine de toutes les douleurs, Siddhartha renonça à tous les biens et les tentations terrestres et devint ainsi le Bouddha, l'éveillé, l'inventeur d'une religion pratiquée sur tous les continents et jusqu'au sommet de la plus haute montagne du monde. Alain Guerre et Philippe Leduc dans l'expédition Everest en 1978.
Le 24 août, nous établissons notre camp de base à 5400 mètres sur la moraine du Khumbu, glacier descendant de l'Everest. Avant même que le travail ne commence, nous prêtons notre concours à la cérémonie religieuse des Sherpas, porteurs de haute altitude, devant l'autel consacré à Bouddha et sur lequel ont été disposées les offrandes qui sont mangées pendant la cérémonie. Les Sherpas se recueillent et prient.
Pierre Chavarquier, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un livre publié chez Alia, Les Inventeurs de Dieu, vous rappelez la vie des fondateurs de six religions, Moïse, Zarathoustra, Confucius, Jésus, Mahomet et Bouddha, dont nous allons parler. Mais est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est l'inventeur, un inventeur de Dieu, et du bouddhisme qu'il est une religion? Vous préférez ce mot très joli qui est à la fin de votre chapitre consacré à Bouddha. Vous dites que c'est une morale en action.
Oui, il se distingue de ses confrères, si je puis dire, en ce sens qu'il n'a pas inventé Dieu, il a plutôt évité cette référence à Dieu, qu'il conseille d'ailleurs à ses disciples d'assumer eux-mêmes leur destinée, de ne pas se reposer sur une idée divine un peu fallacieuse, mais de se prendre en main. Et en fait, on peut dire qu'il a quand même été l'auteur d'une certaine divinité, c'est-à-dire lui-même et l'homme, parce que il a fait l'objet d'un culte. Et s'il y a culte, il y a quand même une idée divine. Alors, y compris dans la religion catholique, on a souvent dit que Dieu s'était fait homme, etc. On peut dire aussi du côté de Bouddha qu'il a tellement transcendé sa personnalité humaine qu'il a, sans le vouloir vraiment, inventé lui-même, pour lui-même, un certain sens de Dieu.
C'est Camus, je crois, qui disait, il a toujours nié Dieu, alors que lui, on le place maintenant sur un autel. Alors, il existe, au moment où apparaît Bouddha, et donc le bouddhisme, il existe une autre religion qui est très importante, qui est d'ailleurs celle, je suppose, du Bouddha à sa naissance, ou de sa famille, et qui est le brahmanisme, le futur hindouisme, et ça, ça a quand même pas mal compté. Et d'ailleurs, il ne s'est jamais opposé à l'hindouisme, au brahmanisme.
Non, d'ailleurs, le principe de Bouddha, c'est de jamais s'opposer à quoi que ce soit. Alors, le brahmanisme existe depuis fort longtemps, ça se perd dans la nuit des temps de l'histoire de l'Inde.
Là, c'est 4000 ans à peu près, autour de
4000 ans. Oui, on dit comme ça. Bon. Il y a un texte essentiel qui servira d'ailleurs à Bouddha et qui sera une référence perpétuelle qu'il ne niera jamais, c'est les Upanishads, qui sont une espèce de texte fondateur. Et Bouddha ira chercher dans les Upanishads des références à son enseignement, c'est sûr et certain. Plus tard, d'ailleurs, quand les Brahmas, qui sont en quelque sorte le clergé, du brahmanisme.
La caste supérieure, parce que voilà. C'est le système des castes aussi.
Absolument. Et c'est parce que Bouddha combattra toute sa vie le système des castes, les brahmanes le brahmanisme n'aura de cesse de s'attaquer au bouddhisme à cause de ça. Et quand il sera arrivé à ses fins, en constatant que finalement le bouddhisme avait laissé des traces profondes dans l'esprit du peuple hindou, il va récupérer les principales idées de Bouddha pour son propre compte.
Mmh. Alors il y a aussi autre croyance essentielle pour tous les Indiens et du brahmanisme, c'est évidemment la réincarnation, l'idée qu'on ne meurt jamais finalement, Pierre Chabartier.
Oui, mais ça c'est le principe des vies renouvelées. Alors si on est un être exemplaire dans sa vie, on devient un homme. Si dans une autre vie, si on ne l'est pas, on devient un chien ou un cancrelat, suivant la moralité de sa conduite. On ne peut pas dire que Bouddha ait combattu cela, mais il a quand même dit qu'en fin de compte, la vita en psychose n'était pas une fin en soi. Et que si on pouvait s'en tirer, c'était mieux comme ça. Et il dit d'ailleurs, à la fin de sa vie, le nirvana, qui est la fin des choses, c'est enfin la liberté, puisqu'on n'est pas obligé de revenir sur Terre sous quelque forme que ce soit.
Alors ça, c'est l'Inde dans laquelle, justement, selon la tradition, le futur Bouddha est né au 5e siècle, au 6e siècle, même avant notre ère. On écoute ici un extrait du très beau film de Bertolucci, Little Buddha.
Bouddha vint au monde, voici 2500 ans, dans un petit royaume de l'Inde. Comme le voulait la coutume en ces temps anciens, sa mère, la reine Maya, regagnait la demeure de ses parents pour donner le jour à son enfant. Elle enfanta presque sans douleur d'un garçon à la peau brillante et dorée. Il était tout à fait éveillé, ses yeux étaient grands ouverts. Et il était assez vigoureux pour se tenir debout tout seul.
Je suis venu pour atteindre l'illumination et libérer toutes les créatures de la souffrance.
Le père de l'enfant, le roi Suddhodana, nomma son fils Siddhartha. Ce qui veut dire celui par qui le bien arrive.
Mon fils sera roi!
En fait, tout ce qui a été écrit sur Bouddha, vous le rappelez, Pierre Chabartier, a été écrit bien après sa mort, un peu comme on a écrit les évangiles bien après celle de Jésus lui-même, comme Jésus d'ailleurs n'a rien écrit. Du coup, évidemment, c'est sujet à caution. Par exemple, était-il le fils d'un roi? Vous n'en êtes même pas sûr vous-même.
Non, il est permis de penser que le papa, Suddhodana, c'était un propriétaire terrien d'une relative importance. Mais comme il semble nécessaire à ces époques reculées que la légende prépare en fait la volonté de ceux qui vont être des saints, la facilité du discours, hein, bon. On a tendance, évidemment, à enjoliver les choses. Hein. Quand il fait sa déclaration au monde en disant « je suis le plus beau, je suis le meilleur », etc., en fait, il a quelques mois et il est debout sur un lotis blanc, comme la légende le dit. Mais ça va dans le sens de ce que l'Inde a toujours demandé, c'est une espèce de côté ampoulé des choses. Et ça ne cessera jamais.
Il n'y a pas que l'Inde, vous le rappelez, tous les grands prophètes, tous les fondateurs de Dieu, vous rappelez que Moïse devait être un prince, Jésus appartenait à la lignée de David, etc. On a toujours éprouvé le besoin, forcément, d'enjoliver un petit peu les choses. Celui-ci, c'est un homme, hein. Enfin, c'est peut-être le fils d'un roi, mais c'est un homme bien vivant. On a contesté sa réalité, il paraît qu'il aurait véritablement existé. Il est même marié, vous le rappelez, il a eu un enfant. Mais alors, il vit dans une espèce de luxe, fils de roi ou soi-disant fils de roi, et il est, comment dirais-je, à l'écart, mis à l'écart d'un monde, du monde réel, et notamment de la souffrance, de la douleur. Et vous nous rappelez que, finalement, en sortant secrètement du palais de son père, eh ben, il découvre, sous trois personnages différents, il découvre la réalité du monde. Pierre Chabartier, d'abord, il y a la rencontre avec un vieillard.
Oui, alors, un petit peu dans un cocon, organisé par son papa, Suddhodana. Il n'a aucun sens de ce qui se passe en dehors des murs du palais. Et puis, comme c'est un garçon qui, depuis, comme on l'a dit, on vient de le dire, un garçon qui a manifesté des qualités d'intelligence absolument hors du commun depuis sa naissance, la curiosité s'empare de lui, bien entendu. Et un jour, il a envie de sortir du palais et il va dans la capitale pour aller voir un peu ce qui se passe dans le monde. Alors, la première des choses qu'il rencontre, c'est un vieillard. Alors, c'est le constat de la décrépitude, c'est l'aspect de la condamnation inéluctable du corps jusqu'au tombeau. Ensuite, c'est un malade. Alors, c'est l'agression du corps humain par la maladie. Et puis, enfin, le troisième, c'est l'accompagnement d'un cadavre jusqu'à son bûcher sur les bords du Gange. Alors, ça, c'est un peu la base de ce qui va devenir la doctrine bouddhiste. C'est tout ça, le substrat de tout ça, c'est la souffrance.
Et c'est ce qui va décider à quitter, justement, le royaume de son père.
Oh, mon père, pourquoi m'avoir caché la vérité pendant si longtemps? Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de l'existence de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté, de la vieillesse et de la mort?
Oui, nous devons tous mourir et renaître. Et mourir encore, mourir puis renaître, et puis mourir et renaître encore. C'est une malédiction que nul être au monde ne peut lever.
Alors c'est cela qui sera ma tâche. Car cette malédiction, je vais la lever.
Et cette malédiction, le futur Bouddha, c'est encore Siddhartha. Alors il espère la lever. D'abord, il quitte sa famille, il quitte son royaume, il se coupe les cheveux, il se prive de tous les privilèges de sa caste, et il s'en va. Et c'est d'abord le choix de l'ascétisme. Alors là, il ne mange plus rien, dites-vous.
Oui, alors c'est sa curiosité toujours aiguisée va le conduire dans différents groupes qui se situent pas très loin d'ailleurs de son camp de base. Et là où la réputation de certains groupes bananistes, hein, c'est pas du tout quelque chose qui a à voir avec le bouddhisme qui n'existe pas encore, mais il est attiré par ses expériences spirituelles, physico-spirituel. Alors, il va vers des groupuscules de gens qui se livrent à des ascétismes de plus en plus durs, à tel point qu'un jour, d'ailleurs, il manque de peu d'y laisser la peau, étant donné qu'il ne s'alimente plus du tout. Alors, c'est à ce moment-là qu'il fait l'admiration de cinq de ses coréligionnaires qui vont lui vouer pour la première fois dans son histoire une admiration totale, en disant ce type, il est vraiment hors du commun, et il pratique encore plus sévèrement les préceptes de la secte dans laquelle ils étaient. Et puis, il ne peut pas en supporter plus, juste au moment où il va passer l'arme à gauche, hein, compte tenu de des épouvantables rigueurs qu'il s'adjuge à lui-même, ouais. Il s'en va. Et à ce moment-là, il va dans un village, il trouve une belle jeune fille qui va lui apporter de quoi manger, elle va le laver, et toujours un peu la légende, en se baignant dans le fleuve à côté du village où il trouve cette jeune fille, ce sont des eaux régénératrices, puisque d'un seul coup, il est rasé de frais, il est propre, il est impeccable, bon. Et du coup, les cinq disciples disent, mais c'est un traître, on le quitte, on s'en va.
Alors, il découvre là ce qu'on appelle, c'est important le mot dans le bouddhisme, qui même s'il n'existe pas encore, qu'on appelle la voie moyenne, c'est-à-dire ni les rigueurs de l'ascétisme, ni la jouissance à laquelle il a renoncé, Pierre Chabartier.
Oui, alors, les différences entre les trois voies principales, le grand véhicule, le petit véhicule et au milieu le véhicule moyen, c'est un peu, comment dirais-je, comme on dit en France, c'est un peu littéraire, parce que les différences sont pas énormes.
En tout cas, ce qu'il ne veut plus, ce dont il ne veut plus, c'est cette rigueur hein, qu'il a éprouvée. Il considère que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, en fait, et c'est au fond à la base, vous l'a rappelé Pierre Chabartier, du bouddhisme, c'est qu'il s'interroge, au fond, comme on le fait tous, comme on l'a toujours fait, comme tous les hommes l'ont fait de tout temps, sur les origines de la douleur, et elle vient, selon lui, tout simplement, du désir, puisque ce sont des frustrations. C'est en se privant de tout, c'est ça, si on peut qualifier comme ça, le bouddhisme, que effectivement on arrive à s'affranchir de la douleur ou à la surmonter.
Absolument. D'ailleurs, c'est à l'origine de tout ce qui va suivre, il y a quatre vérités basiques chez Bouddha. Il dit que tout est souffrance. Il dit qu'il existe une origine à cette souffrance. Il dit qu'il y a une fin à cette souffrance. Et un chemin qui mène à cette extinction. Autrement dit, la base, on parlera plus tard de la compassion, mais en fait, la préoccupation première de ce qui sera son enseignement plus tard, c'est la chasse, la guerre, la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour éradiquer la souffrance.
Alors justement, c'est le renoncement au désir, et c'est ce qu'il va faire dans une scène qui est un peu fondatrice, au fond, du bouddhisme et dans l'histoire du Bouddha. Il est à un moment donné sous un figuier, dans la position du lotus, et voilà qu'il est tenté par le démon, par Mara, qui essaye de le faire dévier justement de cette voie.
Alors Mara, c'est un personnage exagéré comme dans toutes les légendes, mais enfin bon, c'est dans toutes les autres religions dont je parle dans le livre, c'est un peu le passage obligé de ces prophètes.
La tentation. Où,
ouais. Voilà, c'est la tentation. Et il n'y coupe pas, hein, Bouddha. Alors Mara envoie toutes ses légions, et pour finir avec ses trois filles, lascives, belles comme le jour, etc., qui vont le tenter. Et les textes disent qu'il avait toujours les yeux fermés pendant ses tentations, et là, il les ouvre, il regarde les trois filles, et leur beauté se flétrit dans l'instant. Mmh. Alors, à la suite de ça, Mara fait douter, sa dernière arme, c'est de mettre le doute dans l'esprit de Bouddha. Il lui fait se dire à lui-même, mais est-ce que je vais y arriver ? C'est une tâche tellement énorme que pauvre homme tout seul, je ne sais pas si je vais y arriver. Et c'est là où je trouve que il y a un certain comique. C'est Brahma, le dieu, qu'il ne conteste pas, mais enfin bon, dont il ne prend pas en considération véritablement l'existence, qui vient le voir et qui lui dit, en lui tapotant sur l'épaule, « Surtout, mon petit gars, faut pas te décourager, faut y arriver, parce que si tu t'en vas, moi, je suis bien ennuyé. » Et Bouddha accepte. Il dit, « J'accepte ma vocation, ma destinée, etc. » Et à ce moment-là, la légende dit, Brahma, comme il se doit pour les gens très importants, fait trois fois tour de Bouddha et disparaît.
Et puis surtout, il y a cette scène extraordinaire, c'est qu'il prend la terre à témoin. C'est à l'origine, dans la statuaire, dans toutes les statues de Bouddha, ou presque, toujours pas de Bouddha, quand justement Mara, le démon, essaye de le faire douter, il pose la main droite sur le sol, il touche le sol de sa main droite, c'est ce qu'on voit dans la plupart des statues représentant Bouddha. Bouddha qui donc, à ce moment-là, a vaincu Mara et devient le Bouddha.
Siddhartha avait gagné la bataille contre une armée de démons. Il était parvenu au grand calme qui précède le détachement des émotions. Il était parvenu au-delà de lui-même. Il était au-delà de la joie ou de la douleur. Il avait dépassé sa propre raison. Il voyait bien au-delà de l'univers. Siddhartha avait vu l'ultime réalité, la réalité de toute chose. Il avait compris que chaque mouvement de l'univers est un effet provoqué par une cause. Alors, Siddhartha fut appelé le Bouddha, l'éveillé.
L'éveillé, celui qui atteint le nirvana, c'est-à-dire l'extinction au fond de la douleur, Pierre Chabartier, et une expérience dont il va faire profiter les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience personnelle, c'est d'abord l'acte de naissance du bouddhisme, et s'il y a un bouddhisme, c'est qu'il y a prosélytisme. Tout de suite, il va faire des disciples.
Absolument. Alors, il faut bien considérer que le Bouddha a été le premier en Inde à substituer la raison à la foi, à fonder la vérité sur l'usage des sens et de l'intellect, et surtout à ne pas se reposer sur l'évocation d'un Dieu éternel qui, finalement, apporte tous les remèdes à tous les maux. Alors, il recommande que l'homme ne doit compter que sur ses propres forces pour atteindre deux notions très importantes dans le bouddhisme, c'est la vérité et la liberté. Ça, c'est fondamental. Alors, bon, dans ses pérégrinations, quand il s'est rabiboché avec les cinq compagnons, qu'il les a retrouvés, ils se sont prosternés devant lui en reconnaissant en lui un aspect divin. C'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer sa pérégrination et à parcourir le pays en disant la bonne parole à ceux qui veulent l'entendre sans jamais aucune obligation. Alors, ça commence avec le discours sur les bords du Gange, qui va être en quelque sorte, comme le sermon sur la montagne, hein, pour un autre, ça va être le discours fondateur. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont véritablement prendre leur essor. Il faut dire que la séduction du personnage est telle que beaucoup de rajas, de princes, de rois, qui sont essaimés sur la totalité du territoire indien, vont être séduits par l'homme et beaucoup d'entre eux vont être convertis. Et alors, en récompense, chaque fois, pratiquement, ce roi, ce prince, donne à Bouddha et à l'ensemble de ses disciples un lieu. En général, c'est un bois. Alors, il y a le bois des bambous, le bois des manguiers, au fur et à mesure de ses pérégrinations. Et plus tard, chacun de ces endroits va devenir un monastère. Parce que, en fait, il ne prêche que pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, il se replie sur les monastères pour réfléchir, pour affiner le discours, pour méditer.
Et avec des règles de vie qui sont celles des bouddhistes d'aujourd'hui, d'abord c'est au fond un ordre mendiant en quelque sorte qui se met en place. Ils vivent de la mendicité.
Absolument. C'est une règle de base, c'est-à-dire qu'ils sont... Alors les recommandations sont bien précises. Le moine bouddhiste doit être vêtu décemment, mais sans aucune provocation. Il doit toujours avoir à la main le fameux bol à aumône, et ils doivent parcourir les villages, les villes, en demandant l'aumône, jamais en ne demandant l'aumône, excusez-moi, mais en se plaçant devant la porte de la maison, voire du palais, sans jamais élever la voix. Et ils attendent que les gens sortent et déposent dans le bol à aumône soit de la nourriture, soit de quoi acheter de la nourriture.
Et ne remercie pas, hein, vous le dites.
Jamais. Il ne faut pas remercier. Et si, d'aventure, les gens ne manifestent pas d'esprit de charité, le moine doit s'éloigner sans réclamation.
Alors, cette règle de vie, elle va continuer après la mort du Bouddha, qui meurt curieusement, il faut le rappeler, d'une dysenterie. D'abord, en Inde, il y a un roi qui a joué un grand rôle quelques années ou dizaines d'années après le Bouddha, c'est le roi Asoka. Je crois qu'il l'a vraiment répandu dans toute l'Inde du Nord-Est, hein, surtout. Il faut rappeler que le Bouddha, au fond, n'a parcouru dans sa vie, qui était quand même assez longue, qu'une toute petite partie de l'Inde, qui représente, je crois, le quart de la France. Mais c'est ce roi qui a joué un grand rôle pour l'extension en Inde.
Oui, c'est le roi Asoka. Alors, cet homme a une caractéristique assez essentielle. Les historiens spécialistes de l'Inde s'entendent à dire que ce personnage avait une personnalité totalement étonnante. Il était hautement moral et ils le considèrent comme unique au monde. C'est-à-dire qu'eux disent, de tous les empereurs, les rois de l'histoire des hommes, c'est celui qui a montré la plus grande valeur humaine, la plus grande valeur morale. Et c'est grâce à lui qu'on connaît mieux le bouddhisme aujourd'hui, parce que d'une part, il a fait graver dans la pierre les premières paroles, les premiers adictes de Bouddha, d'une part, et d'autre part, sa puissance politique a soutenu le mouvement bouddhiste dans l'Inde.
et un mouvement ouvert à tout le monde. En cela, justement, il se dresse contre le système des castes de l'hindouisme, et à tout le monde, c'est-à-dire bien au-delà de l'Inde et bien après Bouddha, comme par exemple aujourd'hui avec ce bouddhiste vietnamien à Marne-la-Vallée au micro des Nuits magnétiques de France Culture en 1989.
Vous avez quatre commandements entre guillemets, ce qui ne sont même pas des commandements, ce sont des prédications de vie, de éthique, le metta, l'amitié, on pourrait les traduire ainsi, karuna, c'est-à-dire la compassion, upekkha, c'est-à-dire une sorte de sérénité face aux événements, et mudita, aussi une autre forme d'amitié qui essaie de prendre en compte la différence de l'autre et de s'en accommoder, et donc ainsi parvenir à une vraie communication entre les êtres et une façon constante de tenir la bonne distance, dirons-nous, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de votre interlocuteur, c'est-à-dire une forme de tolérance, tolérer la différence de l'autre. Nous éprouvons un amour, une compassion infinie pour tout ce qui est vivant.
La compassion, la tolérance, l'amitié, la sérénité, c'est une belle religion. C'est pas original non plus comme morale, on la trouve dans d'autres religions, Pierre Chabartier.
Oui, il faut quand même souligner le principe de compassion, ça a été véritablement quelque chose de fondamental dans la religion bouddhique. C'est une arme aussi contre la souffrance, hein. On compatit à la souffrance de l'autre, on prend en charge en quelque sorte une partie de la souffrance de l'autre. Et puis, il partage un petit peu avec d'autres, comme vous venez de dire, avec d'autres religions. Le philosophe français René Girard, qui vit depuis fort longtemps aux États-Unis, a écrit dans Les choses cachées depuis les origines du monde, quelque chose qui se rapproche de ça. Il a dit, si l'humanité veut se tirer d'affaire, elle est condamnée à la solidarité. Qui dit solidarité dit évidemment, dans une certaine mesure, la compassion.
Alors cette compassion, ces principes, ces règles, ce bouddhisme, eh ben, il s'est répandu dans le monde entier, sorti d'Inde à partir du 3e siècle, enfin 3 siècles après la mort de Bouddha, s'élant d'abord en Indonésie, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, la Chine aussi, qui a reçu, si je puis dire, le bouddhisme par la route de la soie, et qui de là d'ailleurs l'a exporté elle-même en Corée, au Japon, où il est devenu important. Ce qui est curieux et paradoxal, c'est qu'au fond, il est beaucoup plus important aujourd'hui, le bouddhisme, en dehors de l'Inde où il est né, qu'en Inde, justement.
Bien sûr. Le bouddhisme a été religion d'État dans plusieurs pays, il ne faut pas l'oublier. D'une part, d'autre part...
Mais en Inde, il a presque disparu, c'est ça qui est étonnant, là où il est né.
Enfin, ça n'a pas complètement... Il y a une espèce de... Le mot à la mode en France, la nostalgie. Il y a en Inde une nostalgie du bouddhisme, ça c'est clair. C'est pas par esprit de marketing que les hindouistes ont récupéré une partie du bouddhisme, mais c'est une réalité. Et on peut rêver à un retour du bouddhisme.
En tout cas, c'est une religion universelle parce qu'il est très présent aussi en Europe, aux États-Unis. Je crois qu'en France, c'est une religion, entre guillemets, toujours, qui est la quatrième de France et qui séduit. Qu'est-ce qui peut l'intéresser ? En quoi il peut intéresser un occidental ? En deux mots, il nous reste une seconde.
Alors, moi, je dirais, pour faire d'une manière emblématique la force de cette religion, c'est regarder les statues, où que ce soit, du Bouddha et le sourire du Bouddha, qui est d'une séduction formidable.
Merci Pierre Chabartier. Le Bouddha, vous en parlez, entre autres, dans Les Inventeurs de Dieu, un livre publié aux éditions Aléa, une petite maison d'édition dont je vous donne l'adresse, 15 quai Lassagne, je crois, 69001, à Lyon. À lire également La Nouvelle Histoire du Tibet de Gilles Van Grasdorff chez Perrin, Histoire extraordinaire du bouddhisme tibétain de Dominique Lormier aux éditions Infolio, et enfin Le Bouddhisme pour les Nuls de Jonathan Lando et Stéphane Bodian, qui sortira la semaine prochaine aux éditions First. Vous avez pu entendre des extraits du film Little Buddha de Bertolucci, disponible en DVD aux éditions CIDC Vidéo. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Amstam et Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et notre réalisateur Philippe Rouy. La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, lundi, la bataille d'Alger, 50 ans après,
mardi l'ONU, mercredi les samouraïs, jeudi à l'occasion du centenaire de sa naissance Pierre Mendès France, et enfin vendredi un des plus grands penseurs musulmans du Moyen-Âge, Averroès.